du concert. Anne-Laure tanne son compagnon depuis plusieurs minutes. Il faut qu'il s'extrait de la foule compacte pour se diriger vers la grande scène, ce soir. On y donne un incroyable show pour rendre hommage à Jacques Brel. Un show à la hauteur du grand homme, disparu depuis 40 ans. Bruxelles est en liesse. Ce week-end, la fête de l'Iris bat tous les records. Le soleil est de la partie. Et malgré des nuages épars, tout se passe pour le mieux. Le couple, au milieu de la cohue, observe ce qui se joue sur les toits du Parlement bruxellois. Des jeunes, dans de grands éclats de rire, sont en train de danser le swing. Joie et bonne humeur sont visibles à chaque coin de rue. Le baume au cœur, Anne-Laure presse le pas. Elle ne veut surtout pas louper ce moment. Ce concert hommage marque le retour d'une de ses artistes préférées. Voilà plus de 2 ans que personne ne l'a entendu chanter. Des soucis de santé ont manqué de lui faire perdre son instrument précieux. Une voix unique. L'une des plus extraordinaires de son temps. Mais la chanteuse est une battante. Elle n'a jamais abandonné. Elle va enfin pouvoir faire un retour remarqué sur scène. Cet artiste hors du commun s'appelle Morane. Personne ne peut le savoir, mais ce soir, elle va monter sur scène pour la toute dernière fois. Nous sommes le 6 mai 2018. Il est un peu plus de 20h et c'est l'heure H de mon histoire. Au 29e anniversaire, la région Bruxelles-Capitale a mis les petits plats dans les grands. Près de 100 000 personnes se sont pressées dans les rues drapées de leurs plus beaux atours pendant tout le week-end. Pour clôturer ce grand moment, une vingtaine d'artistes doivent se succéder devant le Palais Royal et interpréter chacun à leur manière l'art du Grand Jacques. Du beatbox, du rap, ah, ce soir, Brel appartient à tous les styles. Anne-Laure et son compagnon arrivent alors que le concert a déjà commencé. Heureusement, Morane n'est pas encore monté sur scène. La star de 57 ans se trouve dans les coulisses, non loin de là. Elle y perçoit déjà l'énergie dégagée par le public, nombreux et chauffés à blanc. Comme liquéfié, Morane respire un grand coup. Elle doit chanter 3 titres de Brel dans quelques minutes. Mais sa voix va-t-elle tenir? Lui sera-t-il possible de maintenir la cadence après plus de 2 ans d'absence? Et si son public s'était détourné d'elle, là de son silence? Alors que son esprit bouillonne, une main familière vient se poser sur son épaule. C'est Yves Barrault. La chanteuse, avec bienveillance, tente de faire rire son ami. Un verre d'eau à la main, dans une robe bleu roi, Morane se détend. Bientôt, alors que le soleil leur fait face, il est l'heure d'entrer en scène. Les deux femmes s'enlacent, envahies l'une et l'autre par l'émotion du moment. Il y a quelques jours, elles ont déjà eu l'occasion de chanter ensemble pour marquer le grand retour de Morane sur scène. Mais ici, à Bruxelles, devant cette foule, il y a quelque chose de particulier qui se passe. En empoignant son micro, la chanteuse repense à ses difficultés qu'elle laisse derrière elle. Tout défile dans ses souvenirs. Ses premiers cours de violon, ses tours de chant dans les rues de Bruxelles, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Et puis le décollage. Starmania, ses grands succès. Tout se mêle là, face aux quelques milliers de personnes pendues à ses lèvres. Les secondes durent des heures. Et l'éclat sur les vitres du Palais Royal est tel que la scène semble baignée dans l'or. Le grand bain, le voilà.
C'est une espèce de renaissance. Parce que je vous avoue que j'ai vraiment cru, à un moment donné, et ça a duré presque 1 an, j'ai vraiment pensé que je ne rechanterais plus, que c'était fini. Voilà. Parce que j'ai eu un très gros souci de voix qu'on n'a jamais pu vraiment définir, on n'a jamais vraiment su naissance que j'ai eue et s'en sont suivis des très gros problèmes de dos. Enfin, j'étais dans la merde, quoi. Voilà. Mais enfin, me revoilà, je peux vous parler de mes petits problèmes de vioc. Et voilà, maintenant tout ça va mieux et me revoilà.
Morane se recentre sur Brel, sur la musique. Le piano commence à jouer sa partition. Il ne faut que quelques mesures, que quelques notes au spectateur pour se rendre compte que l'artiste de 57 ans n'a rien perdu de sa superbe. Son chant, parfois timide, n'en est pas moins parfaitement placé. Morane a récupéré sa voix. Saisissante performance que cette interprétation de la chanson des vieux amants du Grand Jacques. Dans la foule, l'émotion est palpable. Comme beaucoup d'autres, Anne-Laure a le cœur au bord des yeux. Le piano se tait, les applaudissements sont nourris, sincères. Morane quitte la scène. Au milieu de l'effervescence de la fête de l'Iris, elle vient de faire ses adieux. Notre histoire commence le 12 février 1985 à Bruxelles. Depuis plusieurs années, l'émission Culture Club fait les beaux jours de la RTBF. Son présentateur, Joseph Buron, face caméra, prépare ses fiches. Sa mission du soir, interviewer la lauréate du prix musical Angèle Güller. Une vitrine qui permet à des jeunes talents de profiter d'un coup de pouce souvent bienvenu.
Le prix Angèle Güller est attribué tous les deux ans à un professionnel de la chanson belge. Après Pierre Rapsat, après Delchambre, c'est la jeune Claude Morane qui l'a obtenu cette année. Alors ce prix, c'est 100 000 francs, c'est déjà pas mal. Et c'est aussi un bel objet, mais c'est peut-être encore autre chose.
Dans un sourire, le présentateur passe la parole à son invité du jour. Les couleurs chatoyantes du plateau tranchent avec la tenue sombre de Morane. Son ensemble noir répond à ses cheveux bruns et à un maquillage tout aussi obscur. Pourtant, elle apparaît lumineuse, à l'aise. Son prix devant elle, l'artiste est souriante. Elle est dans son élément.
C'est un passage au Festival de Bourges aussi. Ça, c'est très important. C'est une chose que je voulais réaliser déjà depuis quelques années. Puis grâce à ce prix, j'y passe. Et en plus, en première partie de Dick Annegarn et de Plume la Traverse, qui sont deux personnes de chanteurs que j'aime beaucoup. Alors, je suis ravie.
Sa voix grave subjugue le studio. Le printemps de Bourges, il est vrai, est une institution durant ces années 80 galopantes. Pour son édition 85, les plus grandes stars vont s'y presser. Paul Young, Alain Bachung, Hallyday, Léo Ferré, Eddie Mitchell, The Stranglers et beaucoup d'autres. Oh, il y a de quoi pavoiser. Mais Joseph Buron ne lui en laisse pas le temps.
On parle beaucoup de votre tempérament, de votre humour, de votre fantaisie. Il y a beaucoup de compliments dans la presse.
Ah oui.
Alors, quels sont vos maîtres à vous dans la chanson? Qu'est-ce qui
vous inspire? Oh, mes maîtres, je vous en prie. Bah, je subis des influences comme toute personne qui chante et qui compose des chansons. Il y a eu Nougaro, mais j'aimerais plus tellement en parler parce que maintenant, chaque fois, on m'associe à Nougaro, alors ça m'énerve. Il y a Michel Legrand, il y a la musique brésilienne qui m'influence énormément, il y a Al Jarreau, Manhattan Transfer, voilà, il y en a plein, il y a tellement de gens qui m'obsèdent et que j'aime, je serais incapable de les citer tous.
Morane n'est pas encore une star. Pourtant, sur ce plateau, elle crève littéralement l'écran. Avec le pianiste Charles Loos, qui l'accompagne régulièrement, elle chante, après son interview, le titre « Potion magique ». Sa voix s'exprime alors dans toute sa puissance. Autour d'elle, tous sont transportés par son interprétation. Son choix lui correspond bien. Cette chanson développe une succession d'onomatopées dans un style jazzy qui rappelle ses influences. D'aucuns auraient choisi un titre plus classique, plus consensuel. Mais Morane est libre. Détachée des conventions et des carcans dans lesquels on voudrait la placer. Elle vit dans son monde et compte bien y rester. Derrière son micro, l'artiste pense au temps qui passe et au succès qui tarde à venir. Ses premiers disques, chantés avec le cœur, n'ont pas rencontré le succès escompté. Alors ce prix, c'est un peu la bouée de la dernière chance. Il faut s'y accrocher et espérer qu'au bout de la route, elle puisse percer le plafond de verre qui la sépare de la notoriété. gamine de Bruxelles, Morane est née Claudine Leupartz, le 12 novembre 1960. Très tôt, un besoin irrépressible de liberté s'empare d'elle. Elle déteste l'école et préfère nettement la musique. Alors qu'elle commence à apprendre le violon, elle s'en détourne. Le moindre cadre est pour elle une tannée sans nom. En total autodidacte, Claudine se lance dans la pratique du chant et du piano. Il faut dire que son milieu familial lui permet cette libre expression artistique. Son père est le directeur du conservatoire de Verviers. Il est lui-même compositeur. Quant à sa mère, elle enseigne le piano. Ainsi, avant même qu'elle ait 10 ans, la jeune Claudine se rêve musicienne puis chanteuse.
Bah oui, j'ai jamais voulu devenir institutrice, moi, quand j'étais petite. J'ai toujours voulu chanter. Ça a toujours été mon but.
Comment est-ce qu'on devient un chanteur?
À mon avis, il faut voir beaucoup de choses, il faut aller un peu partout. Et quand je dis un peu partout, ça veut dire dans les cabarets. Il faut de temps en temps faire des concours. Je dis pas que c'est spécialement utile, mais ça permet quand même de voir un peu la concurrence, ne fût-ce que de se prendre un petit peu, comme on dirait vulgairement, des coups sur la gueule. Mmh. Ça aide, ça permet de se faire un petit chemin. Et puis, bon, moi, en ce qui concerne les cabarets, j'en ai fait pas mal. J'ai fait le grenier aux chansons, j'ai fait le club, la soupape, tout ça. Il y a eu des moments où j'en ai eu ras-le-bol, mais à partir du moment où je me retrouve sur une grande scène, je m'aperçois quand même que ça fait vachement bien et que ça permet quand même d'avoir beaucoup de planches. Ça donne du métier.
À 15 ans, Claudine se produit en rue. Dans le quartier de la Grand Place à Bruxelles, on la connaît bien. Elle s'y affirme, fredonne les grands standards de la chanson française. Sa voix prend une tessiture unique pour elle. Aucun doute possible, sa réussite passe par le chant. En 1976, elle se lance dans le grand bain en participant au concours Visa pour le show. Elle termine deuxième et impressionne le jury et le public. L'année suivante, dans le cadre des concerts des Lundis d'Hortense, elle fait naître un premier pseudo, Claudie Claude. Elle passe un premier cap en 1979, en intégrant le casting du spectacle Jacques Brel en mille temps. Elle est entourée de professionnels aguerris du monde de la musique. Le metteur en scène, Albert-André Lheureux, lui fait confiance et la place aux côtés d'artistes de talent, de La Fontaine à Klein, en passant par Martinoff ou Geoffroy. Déjà, la chanteuse se détache du lot. Sa technique et ses capacités vocales sont extraordinaires. Lors des répétitions, toutes les personnes présentes sont impressionnées par sa justesse et par la profondeur de sa voix. Lors des représentations, c'est la même chose. Mais cette fois, c'est le public qu'elle emporte avec elle dans des interprétations léchées et émouvantes.
Souvent, on me parle de ça, de cette énergie, de... Les gens me disent, voilà, je suis arrivée à votre spectacle, j'avais des pieds de plomb pour telle et telle raison, ma mère, machin, mon fils, ça ne va pas, etc. Et je suis repartie avec une pêche d'enfer, merci. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vrai que, on dit la musique adoucit les mœurs, ça aussi c'est vrai. Ça fait plus que ça, ça renforce la belle énergie, quoi. Ça donne une belle énergie, la musique.
Le label Sarava, tournée vers la promotion de jeunes talents, décide de lui donner sa chance. C'est Morane qui contacte son fondateur et directeur, Pierre Barout, acteur, producteur, cinéaste, mais aussi auteur, compositeur et interprète. L'homme à la carrière aussi riche qu'éclectique l'encourage à changer de pseudonyme. Claudine devient Claude Morane. Ce nom n'est pas choisi au hasard. C'est un clin d'œil au metteur en scène de Starmania, Francis Morane. En 4 ans, elle sort avec ce label ses 3 premiers 45 tours. Je me roule en boule, fais soleil, tape à la pêche. L'artiste commence à être reçu dans des émissions de radio ou sur les télé belges, comme sur le plateau de Plein Jeu, en décembre 1982.
tout. Alors, tout raconter. Bon, allez-y, alors, après, bon, j'ai fait l'Olympia, ça a déjà été dit. Après, je vais faire l'émission de Michel Legrand pour les fêtes le 31 décembre. Mmh. Et puis demain, pas plus tard que demain, je vais passer au Travers, rue Traversière. Avec un fabuleux pianiste, Charles Loos, au piano. Ça sera à 22h. À 22h. Venez nombreux.
Et comment ça s'est passé alors la rencontre avec Nougaro?
Très bien. Il est fou, moi aussi, tout va bien. Pardon?
Entre bêtes de scène,
et bien, oh, si je te racontais, je te jure.
Oui. Chandel, vous êtes trop indiscret.
Ouh là là.
Oui, bon, d'accord, mais n'insistons pas.
Bien que la presse parle de Morane en termes élogieux, les ventes de ses 45 tours ne sont pas extraordinaires. En 1985, elle obtient le prix Angèle Güler, sort dans les bacs Moi l'argent, toi jeune, et commence à faire des scènes d'importance, dont le Printemps de Bourges. L'artiste écrit la plupart de ses textes avec rapidité et efficacité. S'émotionne juste, sa créativité est impressionnante et ses talents d'écriture sont reconnus dès le début de sa carrière. La mayonnaise est en train de prendre. La même année, au Sentier des Halles, à Paris, sa première scène, dans la capitale française, est un fulgurant succès. Elle se fait remarquer, assez pour enregistrer son premier véritable album, sobrement intitulé « Danser ». Elle vend 20 000 exemplaires en France et trouve son public.
Un premier album, c'est annonceur de début, mais vous n'êtes pas une débutante vraiment.
Non, c'est vrai que je suis pas une débutante, mais un premier album, c'est vrai que moi, c'était mon enfant depuis... en gestation depuis longtemps, mais j'avoue que je suis très contente qu'il se soit fait maintenant. Parce que avec toutes ces années, ça va me faire penser pour une grand-mère encore. Non, mais en quelques années, quand même, j'ai fait beaucoup de studios, j'ai travaillé avec des gens que j'aimais et tout ça, et ça m'a permis d'acquérir de la maturité. Donc en studio, maintenant, je suis plus étrangère au studio, au mixage, à l'enregistrement d'un disque, je sais comment ça se passe, et en plus, j'arrive à parler, quoi, à dire, je dirais pas imposer mes envies. Mais presque, enfin je dis pas ça, je fais pas du terrorisme, quoi. Je peux parler avec les musiciens, avec Evert par exemple, et Arnold, il y a eu un dialogue qui aurait pas eu si je l'avais fait avant, parce que j'étais pas assez solide, je savais pas très bien ce que je voulais. Je pense que maintenant je sais ce que je veux, et encore.
La voix de Morane est de plus en plus reconnue par les pontes du milieu de la chanson à Paris. L'un des plus grands artistes de la période ne tarde pas à la contacter pour un projet qui va... changer sa vie. L'homme qui jouait du piano debout, Michel Berger, décide en 1988 de créer une deuxième version de l'opéra rock à succès Starmania. Devant Morane s'ouvre enfin la route du succès. Il s'annonce absolument fulgurant. 191. Depuis quelques années, Morane connaît un succès de plus en plus irrésistible dans son pays d'origine, mais aussi en France. Ses tubes sont nombreux. Et la voilà invitée dans toutes les émissions qui comptent. Parmi ces dernières, les copains d'alors. Il y a longtemps que son présentateur, Franck Baudonc, voulait faire venir l'artiste. C'est donc avec un malin plaisir qu'il introduit son arrivée sur le plateau.
Madame, messieurs, bonsoir. Franc parler, franc chanter. Sur scène comme dans la vie, il y a chez elle quelque chose d'irrésistible, sans doute parce qu'elle fonctionne à l'instinct et à la sincérité. Morane, alias Claudine Leupart, c'est une nature. C'est un tempérament, l'œil en coin, le sourire spontané, et 36 voix en une, car, ô miracle, voilà bien une chanteuse qui a des cordes vocales, au point de lui valoir le surnom flatteur, d'ailleurs, de Sœur Blanche de Billie Holiday.
La classe. L'émission débute et on découvre la chanteuse de tout juste 30 ans, au milieu de ses anciens camarades de classe de 3e rénovée. Elle, la grande rebelle, qui a rejeté le cadre scolaire, se retrouve de nouveau sur les bancs de l'école. Un drôle de pied de nez à son histoire personnelle. Les copains d'alors permet aux téléspectateurs de découvrir qui était la petite Morane. Une forte envie de vivre, une grande générosité et un rire communicatif. On apprend aussi que sa voix était déjà celle qu'on lui connaît. Pour toutes ses camarades de classe réunies après 16 ans, l'exercice est particulier. Ce qui transpire aussi, c'est l'authenticité qui se dégage de la nouvelle star de la chanson. Pendant une heure, plus encore que d'évoquer ses expériences passées, elle évoque le succès fou de ses nouveaux projets et de son ascension extraordinaire. En l'espace de 3 ans, Morane vient de tout connaître. Un premier concert à l'Olympia, un nouvel album qui s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires. On peut aisément parler d'un décollage en bonne et due forme. La chanteuse est bien consciente que tout cela n'aurait pas pu voir le jour sans la confiance d'un homme, Michel Berger. En lui confiant un rôle dans Starmania, il a changé véritablement sa vie. Sa destinée ne sera plus jamais la même après ça. Luc Plamondon, l'auteur de Starmania qui bosse avec Berger, est convaincu du potentiel de l'artiste après l'avoir vu sur scène. C'est ainsi que Morane a obtenu le rôle de Marie-Jeanne. Sa personnalité colle parfaitement avec ce personnage principal du spectacle.
Et puis,